Armance, suite 3.
Chapitre 6. Cromwell, I charge thee, fling away ambition. By that sin fell the angels. How can man, then, the image of his Maker, hope to win by it? King Henry VIII, Act 3.
Un soir, après l'établissement des parties et l'arrivée des grandes dames pour lesquelles Madame de Bonnivet se dérangeait, elle parlait à Octave avec un intérêt singulier. « Je ne conçois pas votre être, » lui répétait-elle pour la centième fois. « Si vous me juriez, » lui répondit-il, « de ne jamais trahir mon secret, je vous le confierai. » Et personne ne l'a jamais su. « Quoi ? Pas même Madame de Malivert ? » ?»« Mon respect me défend de l'inquiéter. » Madame de Bonnivet, malgré toute l'idéalité de sa croyance, ne fut point insensible au charme de savoir le grand secret d'un des hommes qui, à ses yeux, approchait le plus de la perfection. D'ailleurs, ce secret n'avait jamais été confié. Sur le mot d'Octave, qui demandait une discrétion éternelle, Madame de Bonnivet sortit du salon et revint quelque temps après, portant à la chaîne d'or qui retenait sa montre un ornement singulier. C'était une sorte de croix de fer fabriquée à Königsberg. Elle la prit dans sa main gauche et dit à Octave d'une voix basse et solennelle. « Vous me demandez un secret éternel, dans toutes les circonstances, envers tous. Je vous le déclare par Jéhovah. Oui, je garderai ce secret. » « Eh bien, madame, dit Octave, amusé par cette petite cérémonie et l'air sacramentel de sa noble cousine, ce que je n'ai jamais confié à personne, c'est cet horrible malheur. Je n'ai point de conscience. Je ne trouve en moi rien de ce que vous appelez le sens intime, aucun éloignement instinctif pour le crime. Quand j'aborde le vice, c'est tout vulgairement par l'effet d'un raisonnement, et parce que je le trouve nuisible. Et ce qui me prouve qu'il n'est absolument rien chez moi de divin ou d'instinctif, c'est que je puis toujours me rappeler toutes les parties du raisonnement en vertu duquel je trouve le vice horrible. Ah ! Que je vous plains, mon cher cousin, vous me navrez, dit Madame de Bonnivet d'un ton qui décelait le plus vif plaisir. Vous êtes précisément ce que nous appelons l'être rebelle. » En ce moment, son intérêt pour Octave fut évident aux yeux de quelques observateurs malins, car ils étaient observés. Son geste perdit toute affectation et prit quelque chose de solennel et de vrai. Ses yeux jetaient une douce flamme en écoutant ce beau jeune homme et surtout en le plaignant. Les bonnes amies de Madame de Bonnivet, qui la regardaient de loin, se livraient aux jugements les plus téméraires, tandis qu'elles n'étaient transportées que du plaisir d'avoir enfin trouvé un être rebelle. Octave lui annonçait une victoire mémorable si elle parvenait à réveiller en lui la conscience et le sens intime. Un médecin célèbre du dernier siècle, appelé chez un grand seigneur, son ami, après avoir examiné les symptômes du mal, pendant longtemps et en silence, s'écria tout à coup transporté de joie. « Ah, monsieur le marquis, c'est une maladie perdue depuis les anciens. La pituite vitrée, maladie superbe, mortelle au premier chef. Ah, je l'ai retrouvée, je l'ai retrouvée. » Telle était la joie de Madame de Bonnivet. C'était, en quelque sorte, une joie d'artiste. Depuis qu'elle s'occupait à propager le nouveau protestantisme, qui doit succéder au christianisme dont le temps est passé, et qui, comme on sait, est sur le point de subir sa quatrième métamorphose, elle entendait parler d'êtres rebelles. Ils forment la seule objection au système du mysticisme allemand, fondé sur l'existence de la conscience intime du bien et du mal. Elle avait le bonheur d'en découvrir un. Elle seule au monde connaissait son secret. Et cet être rebelle était parfait. Car sa conduite morale, se trouvant strictement honnête, aucun soupçon d'intérêt personnel ne venait attaquer la pureté de son diabolicisme. Je ne répéterai point toutes les bonnes raisons que Madame de Bonnivet donna ce jour-là à Octave pour lui persuader qu'il avait un sens intime. Le lecteur n'a peut-être pas le bonheur de se trouver à trois pas d'une cousine charmante qui le méprise de tout son cœur et dont il brûle de reconquérir l'amitié. Ce sens intime, comme son nom l'indique, ne peut se manifester par aucun signe extérieur. Mais rien de plus simple et de plus facile à comprendre, disait Madame de Bonnivet. Vous êtes un être rebelle, etc., etc. Ne voyez-vous pas, ne sentez-vous pas que, hors l'espace et la durée, il n'y a rien de réel ici-bas? Pendant tous ces beaux raisonnements, une joie réellement un peu diabolique brillait dans les regards du vicomte de Malivert. Et Madame de Bonnivet, femme d'ailleurs fort clairvoyante, s'écriait « Ah, mon cher Octave, la rébellion est évidente dans vos yeux !» Il faut avouer que ces grands yeux noirs, ordinairement si découragés et dont les traits de flamme s'échappaient à travers les boucles des plus beaux cheveux blonds du monde, étaient bien touchants en ce moment. Ils avaient ce charme mieux senti en France peut-être que partout ailleurs. Il peignait une âme que l'on a cru glacée pendant bien des années et qui s'anime tout à coup pour vous. L'effet électrique produit sur Madame de Bonnivet par cet instant de beauté parfaite et le naturel plein de sentiments qu'il communiquait à ses accents la rendirent vraiment séduisante. En cet instant, elle eût marché au martyr pour assurer le triomphe de sa nouvelle religion. La générosité et le dévouement brillaient dans ses yeux. Quel triomphe pour la malignité qu'il observait! Et ces deux êtres, les plus remarquables du salon, où, sans s'en douter, ils formaient spectacle, ne songeaient nullement à se plaire, et rien ne les occupait moins. C'est ce qui eût semblé parfaitement incroyable à Madame la Duchesse d'Ancre et à ses voisines, les femmes de France les plus fines. Voilà comment on juge dans le monde des choses de sentiment. Armance avait mis une constance parfaite dans son parti pris à l'égard de son cousin. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis qu'elle ne lui adressait plus la parole pour des choses personnelles à eux. Souvent, elle ne lui parlait pas de toute une soirée, et Octave commençait à remarquer les jours où elle avait daigné s'apercevoir de sa présence. Attentif à ne pas paraître déconcerté par la haine de Mademoiselle de Zoïloff, Octave ne marquait plus dans le monde par son silence invincible et par l'air singulier et parfaitement noble, avec lequel, autrefois, ses yeux si beaux avaient l'air de s'ennuyer. Il parlait beaucoup et sans se soucier en aucune façon des absurdités auxquelles il pouvait être entraîné. Il devint ainsi, sans y songer, l'un des hommes les plus à la mode dans les salons, qui dépendait en quelque sorte de celui de Madame de Bonnivet. Il devait au désintérêt parfait qu'il portait en toute chose une supériorité réelle sur ses rivaux. Il arrivait sans prétention au milieu de gens qui en étaient dévorés. Sa gloire, descendant du salon de l'illustre marquise de Bonnivet, dans les sociétés où cette dame était enviée, l'avait placée, sans nul effort, dans une position fort agréable. Sans avoir encore rien fait, il se voyait, dès son début dans le monde, classé comme un être à part. Il n'y avait pas, jusqu'au dédaigneux silence que lui inspirait tout à coup la présence des gens qu'il croyait incapables de comprendre les façons de sentir élevés, qui ne passa pour une singularité piquante. Mademoiselle de Zoïloff vit ce succès et en fut étonnée. Depuis 3 mois, Octave n'était plus le même homme. Il n'était pas étonnant que sa conversation, si brillante pour tout le monde, eut un charme secret pour Armance. Elle n'avait pour but que de lui plaire. Vers le milieu de l'hiver, Armance crut qu'Octave allait faire un grand mariage, et il fut facile de juger de la position sociale où peu de mois avaient suffi pour porter le jeune vicomte de Malivert. On voyait quelquefois dans le salon de madame de Bonnivet un fort grand seigneur qui toute sa vie avait été à l'affût des choses ou des personnes qui allaient être à la mode. Sa manie était de s'y attacher, et il avait dû à cette idée singulière d'assez grands succès. Homme fort commun, il s'était tiré du père. Ce grand seigneur, servile envers les ministres comme un commis, était au mieux avec eux. Et il avait une petite fille, son héritière unique, au mari de laquelle il pouvait faire passer les plus grands honneurs et les plus grands avantages dont puisse disposer le gouvernement monarchique. Tout l'hiver, il avait paru remarquer Octave. Mais on était loin de prévoir le vol qu'allait prendre la faveur du jeune vicomte. Monsieur le duc de donnait une grande partie de chasse à cour dans ses forêts de Normandie. C'était une distinction que d'y être admis. Et depuis 30 ans, il n'avait pas fait une invitation dont les habiles n'eussent pu deviner le pourquoi. Tout à coup, et sans en avoir prévenu, il écrivit un billet charmant au vicomte de Malivert et l'invita à venir chasser avec lui. Il fut décidé, dans la famille d'Octave, parfaitement au fait des allures et du caractère du vieux duc de, que s'il réussissait pendant sa visite au château de Granville, on le verrait un jour duc et pair. Il partit, chargé des bons avis du commandeur et de toute la maison. Il eut l'honneur de voir un cerf et 4 chiens excellents se précipiter dans la Seine du haut d'un rocher de 100 pieds de haut. Et le 3e jour, il était de retour à Paris. « Vous êtes fou, apparemment !» lui dit madame de Bonnivet en présence d'Armance. « Est-ce que la demoiselle vous déplaît ?»«
Je l'ai peu examinée, » répondit-il d'un grand sang-froid. « Elle me semble même fort bien. » Mais quand arrivait l'heure où je viens ici, je me sentais du noir dans l'âme.
Les discussions religieuses reprirent de plus belle après ce grand trait de philosophie. Octave semblait un être étonnant à madame de Bonnivet. Enfin, l'instinct des convenances, si je puis hasarder cette expression, ou quelques sourires surpris, firent comprendre à la belle marquise qu'un salon où se réunissent 100 personnes tous les soirs n'est pas précisément le lieu du monde le mieux choisi pour l'investigation de la rébellion. Elle dit un jour à Octave de venir chez elle, le lendemain à midi, après le déjeuner. Ce mot, depuis longtemps, Octave l'attendait. Le lendemain fut une des plus brillantes journées du mois d'avril. Le printemps s'annonçait par une brise délicieuse et des bouffées de chaleur. Madame de Bonnivet eut l'idée de transporter dans son jardin la conférence théologique. Elle comptait bien puiser dans le spectacle toujours nouveau de la nature quelque argument frappant en faveur d'une des idées fondamentales de sa philosophie. Ce qui est fort beau est nécessairement toujours vrai. La marquise parlait en effet fort bien, et depuis assez longtemps, lorsqu'une femme de chambre vint la chercher pour un devoir à rendre à une princesse étrangère. C'était un rendez-vous pris depuis 8 jours. Mais l'intérêt de la nouvelle religion, dont on croyait qu'Octave serait un jour le saint Paul, avait tout fait oublier. Comme la marquise se sentait en verve, elle pria Octave d'attendre son retour. « Armance vous tiendra compagnie, » ajouta-t-elle. Dès que madame de Bonnivet se fut éloignée,
Savez-vous, ma cousine, ce que me dit ma conscience ?
Reprit aussitôt Octave sans nulle timidité, car la timidité est fille de l'amour qui se connaît et qui prétend.
C'est que depuis 3 mois vous me méprisez comme un esprit vulgaire qui a la tête absolument tournée par l'espoir d'une augmentation de fortune. J'ai longtemps cherché à me justifier auprès de vous, non par de vaines paroles, mais par des actions. Je n'en trouve aucune qui soit décisive. Moi aussi, je ne puis avoir recours qu'à votre sens intime. Or, voici ce qui m'est arrivé. Pendant que je parlerai, voyez dans mes yeux si je mens. »
Et Octave se mit à raconter à sa jeune parente, avec beaucoup de détails et une naïveté parfaite, toute la suite des sentiments et des démarches que nous avons fait connaître au lecteur. Il n'eut garde d'oublier le mot adressé par Armande à son ami Mary de Tersan, et qu'il avait surpris en allant chercher le jeu d'échecs chinois.
Ce mot a disposé de ma vie. Depuis ce moment, je n'ai pensé qu'à regagner votre estime.
Ce souvenir toucha profondément Armance, et quelques larmes silencieuses commencèrent à couler le long de ses joues. Elle n'interrompit point Octave. Quand il eut cessé de parler, elle se tut encore pendant longtemps.
« Vous me croyez coupable, »
dit Octave extrêmement touché de ce silence. Elle ne répondit pas.
« J'ai perdu votre estime, »
s'écria-t-il, et les larmes tremblaient dans ses yeux.
« Indiquez-moi une action au monde par laquelle je puisse regagner la place que j'avais autrefois dans votre cœur, et à l'instant elle est accomplie. »
Ces derniers mots, prononcés avec une énergie contenue et profonde, furent trop forts pour le courage d'Armance. Il ne lui fut plus possible de feindre. Ses larmes la gagnèrent, et elle pleura ouvertement. Elle craignit qu'Octave en ajoutât quelques mots qui auraient augmenté son trouble et lui auraient fait perdre le peu d'empire qu'elle avait encore sur elle-même. Elle redoutait surtout de parler. Elle se hâta de lui donner la main, et faisant un effort pour parler, et ne parler qu'en ami.
« Vous avez toute mon estime !» lui dit-elle.
Elle fut bien heureuse de voir venir de loin une femme de chambre. La nécessité de cacher ses larmes à cette fille lui fournit un prétexte pour quitter le jardin.
Chapitre 7. But passion most dissembles, yet betrays, even by its darkness. As the blackest sky foretells the heaviest tempest, it displays its workings through the vainly guarded eye, and in whatever aspect it arrays itself, 'tis still the same hypocrisy. Coldness or anger, even disdain or hate, are masks it often weeds, and still too late. Don Juan, Canto 1.
Octave resta immobile, les yeux remplis de larmes, et ne sachant s'il devait se réjouir ou s'affliger. Après une si longue attente, il avait donc pu livrer enfin cette bataille tant désirée. Mais l'avait-il perdue ou gagnée?
« Si elle est perdue, se dit-il, tout est fini pour moi. Armance me croit tellement coupable qu'elle feint de se payer de la première excuse que je présente, et ne daigne pas entrer en explication avec un homme si peu digne de son amitié.
Que veulent dire ces paroles si brèves?
Vous avez toute mon estime.
Peut-on rien voir de plus froid? Est-ce un retour parfait à l'ancienne intimité? Est-ce une manière polie de couper court à une explication désagréable?
Le départ d'Armance, si brusque, lui semblait surtout de bien mauvais augure.
Pendant qu'Octave, en proie à un étonnement profond, tâchait de se rappeler exactement ce qui venait de lui arriver, essayait d'en tirer des conséquences, et tremblait, au milieu de ses efforts pour raisonner juste, d'arriver tout à coup à quelque découverte décisive qui finit toute incertitude en lui prouvant que sa cousine le trouvait indigne de son estime. Armance était en proie à la plus vive douleur. Ses larmes la suffoquaient, mais elles étaient de honte et non plus de bonheur.
Elle se hâta de se renfermer dans sa chambre. « Grand Dieu !» se disait-elle dans l'excès de sa confusion. « Qu'est-ce qu'Octave va penser de l'état où il m'a vue ? A-t-il compris mes larmes ? Hélas ! Puis-je en douter ? Depuis quand une simple confidence de l'amitié fait-elle répandre des pleurs à une fille de mon âge ? Oh Dieu ! Après une telle honte, comment oser reparaître devant lui ? Il manquait à l'horreur de ma situation d'avoir mérité ses mépris. Mais, se dit Armance, ce n'est pas aussi une simple confidence. Il y a 3 mois que j'évitais de lui parler. C'est une sorte de réconciliation entre amis qui était brouillée, et l'on dit qu'on pleure dans ces sortes de réconciliations. Oui, mais on ne prend pas la fuite, mais on n'est pas jeté dans le trouble le plus extrême. Au lieu de me trouver renfermée et fondant en larmes chez moi, je devrais être au jardin et continuer à lui parler, heureuse du simple bonheur de l'amitié. Oui, se dit Armance, je dois retourner au jardin. Madame de Bonnivet n'est peut-être pas encore revenue. En se levant, elle se regarda dans une glace et vit qu'elle était hors d'état de paraître devant Octave. Ah ! S'écria-t-elle en se laissant tomber de désespoir sur une chaise. « Je suis une malheureuse, perdue d'honneur et perdue, aux yeux de qui ? Aux yeux d'Octave. » Ses sanglots et son désespoir l'empêchèrent de penser. « Quoi ? » se dit-elle après quelques moments. « Si tranquille, si heureuse même, malgré mon fatal secret, il y a une demi-heure, et perdue maintenant. » Perdu à jamais, sans ressources. Un homme d'autant d'esprit aura vu toute l'étendue de ma faiblesse, et cette faiblesse est du nombre de celles qui doivent le plus choquer sa sévère raison. Les larmes d'Armance la suffoquaient. Cet état violent se prolongea pendant plusieurs heures. Il produisit un léger mouvement de fièvre qui valut à Armance la permission de ne pas quitter sa chambre de la soirée. La fièvre augmenta. Bientôt parut une idée. « Je ne suis qu'à demi méprisable, car enfin, je n'ai pas avoué en propre terme mon fatal amour. Mais d'après ce qui vient d'arriver, je ne puis répondre de rien. Il faut élever une barrière éternelle entre Octave et moi. Il faut me faire religieuse. Je choisirai l'ordre qui laisse le plus de solitude. » Un couvent situé au milieu de montagnes élevées, avec une vue pittoresque. Là, jamais je n'entendrai parler de lui. Cette idée est le devoir, se dit la malheureuse Armance. Dès ce moment, le sacrifice fut fait. Elle ne se disait pas, elle sentait. Le dire en détail eût été comme en douter. Elle sentait cette vérité. Du moment que j'ai aperçu le devoir, ne pas le suivre à l'instant, en aveugle, sans débat, c'est agir comme une âme vulgaire, c'est être indigne d'Octave. Que de fois ne m'a-t-il pas dit que tel est le signe secret auquel on reconnaît les âmes nobles ? Ah, je me soumettrai à votre arrêt, mon noble ami, mon cher Octave. La fièvre lui donnait l'audace de prononcer ce nom à demi-voix, et elle trouvait du bonheur à le répéter. Bientôt, Armance se vit religieuse. Il y eut des moments où elle était étonnée des ornements mondains qui paraient sa petite chambre. Cette belle gravure de la Madone de San Sisto, que m'a donnée Madame de Malivert, il faudra la donner à mon tour, se dit-elle. Elle a été choisie par Octave. Il l'a préférée au mariage de la Madone, le premier tableau de Raphaël. Déjà dans ce temps-là, je me souviens que je disputais avec lui sur la bonté de son choix, uniquement pour avoir le plaisir de le voir le défendre. L'aimais-je donc sans le savoir ? L'ai-je toujours aimé ? Ah ! Il faut arracher de mon cœur cette passion affreuse. Et la malheureuse Armance, cherchant à oublier son cousin, trouvait son souvenir mêlé à toutes les actions de sa vie, même les plus indifférentes. Elle était seule, elle avait renvoyé sa femme de chambre afin de pouvoir pleurer sans contrainte. Elle sonna et fit transporter ses gravures dans la pièce voisine.
Bientôt la petite chambre fut dépouillée et seulement ornée de son joli papier bleu lapis. Est-il permis à une religieuse, se dit-elle, d'avoir un papier dans sa cellule? Elle pensa longtemps à cette difficulté. Son âme avait besoin de se figurer exactement l'état où elle serait réduite dans sa cellule. L'incertitude à cet égard était au-delà de tous les mots, car c'était l'imagination qui se chargeait de les peindre. « Non, se dit-elle enfin, les papiers ne doivent pas être permis. Ils n'étaient pas inventés du temps des fondatrices des ordres religieux. Ces ordres viennent d'Italie. Le prince Touboskin nous disait qu'une muraille blanchie chaque année avec de la chaux est le seul ornement de tant de beaux monastères. « Ah ! » reprit-elle dans son délire, « il faut peut-être aller prendre le voile en Italie. Le prétexte serait la santé. » « Oh non ! Du moins ne pas quitter la patrie d'Octave. Du moins entendre toujours parler sa langue. » En ce moment, Mary de Tersan entra dans sa chambre. La nudité des murailles frappa cette jeune fille. Elle pâlit en s'approchant de son amie. Armance, exaltée par la fièvre et par un certain enthousiasme de vertu, qui était encore une manière d'aimer Octave, voulut se lier par une confidence. « Je veux me faire religieuse, » dit-elle à Mary. « Quoi ? La sécheresse d'âme d'une certaine personne serait-elle allée jusqu'à blesser ta délicatesse ?»« Ah, mon Dieu, non ! Je n'ai rien à reprocher à Madame de Bonnivet. » Elle a d'autant d'amitié pour moi qu'elle peut en sentir pour une fille pauvre et qui n'est rien dans le monde. Même elle me chérit quand elle a du chagrin et ne pourrait être pour personne meilleure que pour moi. Je serais injuste et j'aurais l'âme de ma position si je lui faisais le moindre reproche. » Un des derniers mots de cette réponse fit pleurer Mary, qui était riche et qui avait les nobles sentiments qui distinguent son illustre famille. Sans se parler autrement que par leurs larmes et lents serrements de main, les deux amis passèrent ensemble une grande partie de la soirée. Armance dit enfin à Mary toutes les raisons qu'elle avait pour se retirer au couvent. Or, une seule. Que pouvait devenir dans le monde une fille pauvre, et qu'après tout on ne pouvait pas marier à un petit marchand du coin de la rue? Quel sort l'attendait? Dans un couvent, on ne dépend que de la règle. S'il n'y a pas ces distractions que l'on doit aux beaux-arts ou à l'esprit des gens du monde, et dont elle jouissait auprès de Madame de Bonnivet, jamais aussi il n'y a nécessité absolue de plaire à une seule personne, et humiliation si l'on n'y réussit pas. Armance serait morte de honte plutôt que de prononcer le nom d'Octave. « Tel est le comble de mon malheur !» pensait-elle en pleurant et se jetant dans les bras de Mary. « Je ne puis demander de conseil même à l'amitié la plus dévouée et la plus vertueuse. » Pendant qu'Armance pleurait dans sa chambre, Octave, par un mouvement que, malgré sa philosophie, il était loin de s'expliquer, sachant que de toute la soirée il ne verrait pas Mademoiselle de Zoïlov, se rapprocha des femmes qu'il négligeait ordinairement pour les arguments religieux de Madame de Bonnivet. Il y avait déjà plusieurs mois qu'Octave se voyait poursuivi par des avances fort polies et qui n'en étaient que plus contrariantes. Il était devenu misanthrope et chagrin. Chagrin comme Alceste sur l'article des filles à marier. Dès qu'on lui parlait d'une femme de la société qu'il ne connaissait pas, son premier mot était « A-t-elle une fille à marier ? » Depuis peu même, sa prudence avait appris à ne plus se contenter d'une première réponse négative. « Madame une telle n'a pas de fille à marier, disait-il, mais n'aurait-elle point quelque nièce ? » Pendant qu'Armance était dans une sorte de délire, Octave, qui cherchait à se distraire de l'incertitude où le plongeait l'événement du matin, non seulement parla à toutes les femmes qui avaient des nièces, mais encore il aborda quelques-unes de ces mères redoutables qui ont jusqu'à 3 filles. Peut-être Tant de courage était-il rendu facile par la vue de la petite chaise où s'asseyait ordinairement Armance près du fauteuil de madame de Bonnivet. Elle venait d'être occupée par une des demoiselles de Clay, dont les belles épaules allemandes, favorisées par le peu d'élévation de la petite chaise d'Armance, profitaient de l'occasion pour étaler toute leur fraîcheur. Quelle différence ! Pensait, ou plutôt sentait, Octave. Comme ma cousine serait humiliée de ce qui fait le triomphe de mademoiselle de Clay pour celle-ci. Ce n'est que de la coquetterie permise, ce n'est pas même une faute. Là encore, on peut dire « noblesse oblige ». Octave se mit à faire la cour à mademoiselle de Clay. Il eût fallu avoir quelque intérêt à le deviner, ou plus d'habitude de la simplicité habituelle de son expression, pour voir dans sa prétendue gaieté tout ce qu'elle avait d'amer et de méprisant. On fut assez bon pour trouver du trait dans ce qu'il disait. Ses mots les plus applaudis lui semblaient à lui-même fort communs et quelquefois même entachés de grossièreté. Comme il ne s'était point arrêté ce soir-là auprès de madame de Bonnivet, quand elle passait près de lui, elle le grondait à voix basse, et Octave justifiait sa désertion par des mots qui semblaient charmants à la marquise. Elle était fort contente de l'esprit de son futur prosélyte et de l'aplomb qu'il prenait dans le monde. Elle fit son éloge avec la bonhomie de l'innocence, si le mot bonhomie ne rougissait pas de se voir employé à l'occasion d'une femme qui avait de si belles poses dans sa bergère et des mouvements d'yeux si pittoresques en regardant le ciel. Il faut avouer que quelquefois, en regardant fixement une moulure d'or du plafond de son salon, elle parvenait à se dire « Là, dans cet espace vide, dans cette terre, il y a un génie qui m'écoute, magnétise mon âme et lui donne les sentiments singuliers et pour moi bien réellement imprévus que j'exprime quelquefois avec tant d'éloquence. » Ce soir-là, madame de Bonnivet, fort contente d'Octave et du rôle auquel son disciple pourrait s'élever un jour, disait à madame de Clay « Il ne manquait réellement au jeune vicomte que l'assurance que donne la fortune. Quand je n'aimerais pas cette excellente loi d'indemnité, parce qu'elle est si juste envers nos pauvres émigrés, je l'aimerais pour l'âme nouvelle qu'elle donne à mon cousin. » Madame d'Ancre regarda madame de Clay et madame la comtesse de la Ronze. Et comme madame de Bonnivet quittait ses dames pour aller au-devant d'une jeune duchesse qui entrait, « Il me semble que tout ceci est fort clair, » dit-elle à madame de Clay. « Trop clair, » répondit celle-ci. « Nous arrivons au scandale. Encore un peu plus d'amabilité de la part de l'étonnant Octave, et notre chère marquise ne pourra s'empêcher de nous prendre tout à fait pour ses confidentes. » « C'est toujours ainsi, » reprit madame d'Ancre, « que j'ai vu finir ces grandes vertus qui s'avisent de dogmatiser sur la religion. » « Ah, ma belle marquise, heureuse la femme qui écoute tout bonnement le curé de sa paroisse et rend le pain béni. Cela vaut mieux assurément que de faire relier des bibles par tout venin, » reprit madame de Clay. Mais toute la prétendue amabilité d'Octave avait disparu en un clin d'œil. Il venait de voir Mary, qui revenait de la chambre d'Armance, parce que sa mère avait demandé sa voiture. Et Mary avait la figure renversée. Elle partit si vite qu'Octave ne put lui parler. Il sortit lui-même à l'instant. Il lui eût été impossible désormais de dire une parole à qui que ce soit. L'air affligé de mademoiselle de Tersan lui apprenait qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Peut-être mademoiselle de Zoïlov allait-elle quitter Paris pour le fuir. Ce qui est admirable, c'est que notre philosophe n'eut pas la moindre idée qu'il aimait Armance d'amour. Il s'était fait les serments les plus forts contre cette passion. Et comme il manquait de pénétration, et non pas de caractère, il eut probablement tenu ses serments.
Chapitre 8. What shall I do the while? where abide, how live? Or in my life what comfort, when I am dead to him? Cymbeline, Act 3.
Armand s'était loin de se faire une semblable illusion. Il y avait déjà longtemps que voir Octave était le seul intérêt de sa vie. Lorsqu'un hasard imprévu était venu changer la position sociale de son jeune parent, que de combats avaient déchiré son âme, que d'excuses n'avait-elle pas inventées pour le changement soudain qui avait paru dans la conduite d'Octave. Elle se demandait sans cesse « A-t-il une âme vulgaire ?» Lorsqu'enfin elle fut parvenue à se prouver qu'Octave était fait pour sentir d'autres bonheurs que ceux de l'argent et de la vanité, un nouveau sujet de chagrin était venu s'emparer de son attention. « Je serais doublement méprisée, se disait-elle, si l'on soupçonnait mon sentiment pour lui, moi, la plus pauvre de toutes les jeunes filles qui paraissent dans le salon de Madame de Bonnivet. » Ce profond malheur qui le menaçait de toutes parts et qui aurait dû engager Armance à se guérir de sa passion, ne fit, en la portant à une mélancolie profonde, que la livrer plus aveuglément au seul plaisir qui lui resta dans le monde, celui de songer à Octave. Tous les jours, elle le voyait pendant plusieurs heures, et les petits événements de chaque journée venaient changer sa manière de penser sur son cousin. Comment eût-elle pu guérir ? C'est par crainte de se trahir, et non par mépris, qu'elle avait mis tant d'attention à n'avoir jamais avec lui de conversation intime. Le lendemain de l'explication dans le jardin, Octave vint deux fois à l'hôtel de Bonnivet, mais Armance ne parut point. Cette absence singulière augmenta beaucoup l'incertitude qui l'agitait sur le résultat favorable ou funeste de la démarche qu'il s'était permise. Le soir, il vit son arrêt dans l'absence de sa cousine et n'eut pas le courage de se distraire par le son de vaines paroles. Il ne put prendre sur lui de parler à qui que ce soit. À chaque fois qu'on ouvrait la porte du salon, il lui semblait que son cœur était sur le point de se briser. Enfin, une heure sonna, il fallut partir. En sortant de l'hôtel de Bonnivet, le vestibule, la façade, le marbre noir au-dessus de la porte, le mur antique du jardin, toutes ces choses assez communes lui semblèrent avoir une physionomie particulière qu'elle devait à la colère d'Armance. Ses formes vulgaires devinrent chères à Octave par la mélancolie qu'elle lui inspirait. Oserais-je dire qu'elles acquirent rapidement à ses yeux une sorte de noblesse tendre? Il tressaillit le lendemain en trouvant une ressemblance entre le vieux mur du jardin de sa maison, couronné de quelques violiers jaunes en fleurs, et le mur d'enceinte de l'hôtel de Bonnivet. Le troisième jour, après celui où il avait osé parler à sa cousine, il vint chez Madame de Bonnivet, bien convaincu qu'il était à jamais relégué au rang des simples connaissances. Quel ne fut pas son trouble en apercevant Armance au piano! Elle le salua avec amitié. Il la trouva pâle et fort changée, et cependant, ce qui l'étonna beaucoup et fut sur le point de lui rendre un peu d'espoir, il crut apercevoir dans ses yeux un certain air de bonheur. Le temps était magnifique, et Madame de Bonnivet voulut profiter d'une des plus jolies matinées de printemps pour faire quelques longues promenades. « Êtes-vous des nôtres, mon cousin ? » dit-elle à Octave. « Oui, madame, s'il ne s'agit ni du bois de Boulogne, ni de Mousseau. » Octave savait que ces buts de promenade déplaisaient à Armance. Le jardin du roi, si l'on y va par le boulevard, trouvera-t-il grâce à vos yeux? Il y a plus d'un an que je n'y suis allée. Je n'ai pas vu le jeune éléphant, dit Armance en sautant de joie et allant chercher son chapeau. On partit gaiement. Octave était comme hors de lui. Madame de Bonnivet passa en calèche devant Tortoni avec son bel Octave. C'est ainsi que parlèrent les hommes de la société qui les aperçurent. Ceux dont la santé n'était pas en bon état
se livrèrent, à cette occasion, à de tristes réflexions sur la légèreté des grandes dames qui reprenaient les façons d'agir de la cour de Louis XV. Dans les circonstances graves vers lesquelles nous marchons, ajoutaient ces pauvres gens, il est bien maladroit de donner aux tiers états et à l'industrie l'avantage de la régularité des mœurs et de la décence des manières. Les jésuites ont bien raison de débuter par la sévérité. Armance dit que le libraire venait d'envoyer 3 volumes intitulés « Histoire de ». « Me conseillez-vous cet ouvrage ?» dit la marquise à Octave. « Il est si effrontément prôné dans les journaux que je m'en méfie. » « Vous le trouverez cependant fort bien fait. L'auteur sait raconter, et il ne s'est encore vendu à aucun parti. »«
Mais est-il amusant ?» dit Armance.
« Ennuyeux comme la peste, » répondit Octave. On parla de certitudes historiques, puis de monuments.
« Ne me disiez-vous pas, un de ces jours, » reprit madame de Bonnivet, « qu'il n'y a de certains que les monuments ?»«
Oui, pour l'histoire des Romains et des Grecs, gens riches qui eurent des monuments, mais les bibliothèques renferment des milliers de manuscrits sur le Moyen-Âge, et ces paraissent toutes pures chez nos prétendus savants si nous n'en profitons pas.
Mais ces manuscrits sont écrits en si mauvais latin, reprit madame de Bonnivet.
Peu intelligible peut-être pour nos savants, mais pas si mauvais. Vous seriez fort contente des lettres d'Héloïse à Abélard.
Leur tombeau était, dit-on, au musée français, dit Armance. Qu'en a-t-on fait?
On l'a mis au Père-Lachaise.
« Allons le voir, » dit madame de Bonnivet, et quelques minutes après, on arriva à ce jardin anglais, le seul vraiment beau par sa position qui existe à Paris. On visita le monument d'Abélard, l'obélisque de Masséna. On chercha la tombe de l'abbé Doyère. Octave vit le lieu où repose la jeune B et lui donna des larmes. La conversation était sérieuse, grave, mais d'un intérêt touchant. Les sentiments osaient se montrer sans aucun voile. À la vérité, on ne parlait que de sujets peu capables de compromettre, mais le charme céleste de la candeur n'en était pas moins vivement senti par les promeneurs, quand ils virent s'avancer de leur côté un groupe où régnait la spirituelle comtesse de G.
Elle venait en ce lieu chercher des inspirations, dit-elle à madame de Bonnivet.
Ce mot fit presque sourire nos amis. Jamais ce qu'il y a de commun et d'affecté ne leur avait paru si choquant. Madame de G, comme tout ce qu'il y a de vulgaire en France, exagérait ses impressions pour arriver à l'effet, et les personnes dont elle troublait l'entretien diminuaient un peu leurs sentiments, et les exprimant non par fausseté, mais par une sorte de pudeur instinctive, inconnue des gens communs, quelque esprit qu'ils aient. Après quelques mots de conversation générale, comme l'allée était fort étroite, Octave et Armance se trouvèrent un peu en arrière.
« Vous avez été indisposé avant-hier, » dit Octave, « et même la pâleur de votre amie Mérie en sortant de chez vous me fit craindre que vous ne fussiez très souffrante. »«
Je n'étais point malade, » dit Armance d'un ton de légèreté un peu marqué. « Et l'intérêt que prend à ce qui me regarde votre vieille amitié, pour parler comme madame de G, me fait un devoir de vous apprendre la cause de mes petits chagrins. Depuis quelque temps, il est question d'un mariage pour moi. Avant-hier, on a été sur le point de tout rompre, et c'est pourquoi j'étais un peu troublée au jardin. Mais je vous demande un secret absolu, » dit Armance, effrayée d'un mouvement de madame de Bonnivet qui se rapprochait d'eux. « Je compte sur un secret éternel, même avec madame votre mère, et surtout envers ma tante. »
Cet aveu étonna beaucoup Octave. Madame de Bonnivet s'étant éloignée de nouveau, « Voulez-vous me permettre une question ? » reprit-il. « Est-ce un mariage de convenance toute seule ?
Armance, à qui le mouvement et le grand air avaient donné les plus belles couleurs, pâlit tout à coup. La veille, en formant son projet héroïque, elle n'avait pas prévu cette question si simple. Octave vit qu'il était indiscret et cherchait une plaisanterie pour changer de discours. Lorsqu'Armance lui dit, en essayant de dominer sa douleur, « J'espère que la personne qu'on propose méritera votre amitié. Elle a toute la mienne. Mais si vous voulez, ne parlons plus de cet arrangement, peut-être encore assez éloigné. » Peu après, on remonta en calèche, et Octave, qui ne trouvait plus rien à dire, se fit descendre au gymnase.
Chapitre 9. Que la paix habite dans ton sein, pauvre logis, qui te garde toi-même. Cymbeline.
La veille, après une journée affreuse, et dont on ne pourrait se former qu'une faible idée en pensant à l'état d'un malheureux dépourvu de courage, et qui se prépare à subir une opération de chirurgie souvent mortelle, une idée était apparue à Armance. « Je suis assez liée avec Octave pour lui dire qu'un ancien ami de ma famille songe à me marier. Si mes larmes m'ont trahi, cette confidence me rétablira dans son estime. Ce mariage prochain et les inquiétudes qu'il me cause feront attribuer mes larmes à quelque allusion un peu trop directe à la situation où je me trouvais. S'il a un peu d'amour pour moi, hélas, il s'en guérira, mais du moins je pourrai être son ami. Je ne serai pas exilée dans un couvent et condamnée à ne plus le voir, même une seule fois dans toute ma vie. » Armance comprit, les jours suivants, qu'Octave cherchait à deviner quelle était la personne préférée. « Il faut qu'il connaisse l'homme dont il s'agit, » se dit-elle en soupirant. « Mon cruel devoir s'étend jusque-là. Ce n'est qu'à ce prix qu'il peut m'être permis de le voir encore. » Elle pensa au baron de Rissé, ancien chef vendéen, personnage héroïque, qui paraissait assez souvent dans le salon de madame de Bonnivet, mais qui paraissait pour se taire. Dès le lendemain, Armance parla au baron des mémoires de madame de La Roche-Jacquelin. Elle savait qu'il en était jaloux. Il en parla fort mal et fort au long. « Mademoiselle de Zoïlov, aime-t-elle un neveu du baron ?» se dit Octave. « Ou serait-il possible que les hauts faits du vieux général fissent oublier ses 55 ans ?» Ce fut en vain qu'Octave essaya de faire parler le taciturne baron, encore plus silencieux et méfiant depuis qu'il se voyait l'objet de ses singulières prévenances. Je ne sais quelle politesse trop marquée qui fut adressée à Octave par une mère qui avait des filles à marier, effaroucha sa misanthropie et lui fit dire à sa cousine, qui faisait l'éloge de ces demoiselles, qu'eussent-elles une protectrice encore plus éloquente, il s'était, grâce à Dieu, interdit toute admiration exclusive jusqu'à l'âge de 26 ans. Ce mot imprévu frappa Armance comme un coup de foudre. De sa vie, elle n'avait été aussi heureuse. 10 fois peut-être depuis sa nouvelle fortune, Octave avait parlé devant elle de l'époque où il songerait à se marier. À la surprise que lui causa le mot de son cousin, elle s'aperçut qu'elle l'avait oublié. Cet instant de bonheur fut délicieux. Tout occupé la veille de la douleur extrême que cause un grand sacrifice à faire au devoir, Armance avait entièrement oublié cette admirable source de consolation. C'étaient ces sortes d'oublis qui la faisaient accuser de manquer d'esprit par ces gens du monde, à qui les mouvements de leur cœur laissent le loisir d'être attentifs à tout. Comme Octave venait d'avoir 20 ans, Armance pouvait espérer d'être sa meilleure amie encore pendant 6 années, et de l'être sans remords. « Et qui sait, se disait-elle, j'aurai peut-être le bonheur de mourir avant la fin de ces 6 années ?» Une nouvelle manière d'être commença pour Octave. Autorisé par la confiance qu'Armance lui témoignait, il osait la consulter sur les petits événements de sa vie. Presque chaque soir, il avait le bonheur de pouvoir lui parler sans être précisément entendu des voisins. Il vit avec délice que ses confidences, quelque minutieuses qu'elles fussent, n'étaient jamais à charge. Pour donner du courage à sa méfiance, Armance lui parlait aussi de ses chagrins, et il s'établit entre eux une intimité fort singulière. L'amour le plus heureux a ses orages. On peut même dire qu'il vit autant de ses terreurs que de ses félicités. Ni les orages, ni les inquiétudes ne troublèrent jamais l'amitié d'Armance et d'Octave. Il sentait qu'il n'avait aucun titre auprès de sa cousine. Il n'aurait pu se plaindre de rien. Bien loin de s'exagérer la gravité de leur relation, jamais ces âmes délicates ne s'étaient dit un mot à ce sujet. Le mot d'amitié, même, n'avait pas été prononcé entre elles depuis la confidence de mariage faite auprès du tombeau d'Abélard. Comme, se voyant sans cesse, ils pouvaient se parler rarement sans être entendus, ils avaient toujours dans leurs courts moments de liberté tant de choses à s'apprendre, tant de faits à se communiquer rapidement, que toute vaine délicatesse était bannie de leurs discours. Il faut convenir qu'Octave aurait difficilement pu trouver un sujet de plainte. Tous les sentiments que l'amour le plus exalté, le plus tendre, le plus pur peut faire naître dans un cœur de femme, Armance les éprouvait pour lui. L'espoir de la mort, qui formait toute la perspective de cet amour, donnait même à son langage quelque chose de céleste et de résigné, tout à fait d'accord avec le caractère d'Octave. Le bonheur tranquille et parfait dont le pénétrait la douce amitié d'Armance fut si vivement senti par lui qu'il espéra changer de caractère. Depuis qu'il avait fait la paix avec sa cousine, il n'était plus retombé dans des moments de désespoir tels que celui qui lui fit regretter de n'avoir pas été tué par la voiture qui débouchait au galop dans la rue de Bourbon. Il dit à sa mère « Je commence à croire que je n'aurai plus de ces accès de fureur qui te faisaient craindre pour ma raison. » Octave était plus heureux. Il eut plus d'esprit. Il s'étonnait de voir dans la société bien des choses qui ne l'avaient jamais frappé auparavant, quoique depuis longtemps elles fussent sous ses yeux. Le monde lui semblait moins haïssable et surtout moins occupé de lui nuire. Il se disait qu'excepté dans la classe des femmes dévotes ou laides, chacun songeait beaucoup plus à soi et beaucoup moins à nuire aux voisins qu'il n'avait cru l'apercevoir autrefois. Il reconnut qu'une légèreté de tous les moments rend tout esprit de suite impossible. Il s'aperçut enfin que ce monde, qu'il avait eu le fol orgueil de croire arrangé d'une manière hostile pour lui, n'était tout simplement que mal arrangé. « Mais, disait-il à Armance, tel qu'il est, il est à prendre ou à laisser. Il faut ou tout finir rapidement et sans délai par quelques gouttes d'acide prussique, ou prendre la vie gaiement. » En parlant ainsi, Octave cherchait à se convaincre bien plus qu'il n'exprimait une conviction. Son âme était séduite par le bonheur qu'il devait à Armance. Ses confidences n'étaient pas toujours sans péril pour cette jeune fille. Quand les réflexions d'Octave prenaient une couleur sombre, quand il était malheureux par la perspective de l'isolement à venir, Armance avait bien de la peine à lui cacher combien elle eût été malheureuse de se figurer qu'un instant dans sa vie elle pourrait être séparée de lui. « Quand on n'a pas d'amis à mon âge, lui disait Octave un soir, peut-on espérer d'en acquérir encore? Aime-t-on par projet ? » Armance, qui sentait ses larmes prêtes à la trahir, fut obligée de le quitter brusquement. « Je vois, lui dit-elle, que ma tante veut me dire un mot. » Octave, appuyé contre la fenêtre, continua tout seul le cours de ses réflexions sombres. « Il ne faut pas bouder le monde, se dit-il enfin. Il est si méchant qu'il ne daignerait pas s'apercevoir qu'un jeune homme, enfermé à double tour dans un second étage de la rue Saint-Dominique, le hait avec passion. Hélas, un seul être s'apercevrait que je manque dans le monde, et son amitié en serait navrée. » Et il se mit à regarder de loin Armance. Elle était assise sur sa petite chaise auprès de la marquise, et lui parut dans cet instant d'une beauté ravissante.
tout le bonheur d'Octave, qu'il croyait si ferme et si bien assuré, ne tenait cependant qu'à ce seul petit mot « amitié » qu'il venait de prononcer. On échappe difficilement à la maladie de son siècle. Octave se croyait philosophe et profond. Tout à coup, Mademoiselle de Zoïlov se rapprocha de lui avec l'air de l'inquiétude et presque de la colère. « On vient de raconter à ma tante, lui dit-elle, une singulière calomnie sur votre compte. Une personne grave, et qui jusqu'ici ne s'est point montrée votre ennemie, est venue lui dire que souvent, à minuit, quand vous sortez d'ici, vous allez finir la soirée dans d'étranges salons, qui ne sont à peu près que des maisons de jeu. Et ce n'est pas tout. Dans ces lieux où règne le ton le plus avilissant, vous vous distinguez par des excès qui étonnent leurs plus anciens habitués. Non seulement vous vous trouvez environné de femmes dont la vue est une tache, mais vous parlez, vous tenez le dé dans leur conversation. L'on est allé jusqu'à dire que vous brillez en ces lieux et par des plaisanteries dont le mauvais goût passe toute croyance. Les gens qui s'intéressent à vous, car il s'en est rencontré même dans ces salons, vous ont d'abord fait l'honneur de prendre ces mots pour de l'esprit appris. Le vicomte de Malivert est jeune, se sont-ils dit. Il aura vu employer ses plaisanteries dans quelques réunions vulgaires pour raviver l'attention et faire briller le plaisir dans les yeux de quelques hommes grossiers. Mais vos amis ont remarqué avec douleur que vous vous donniez la peine d'inventer sur place vos mots les plus révoltants. Enfin, le scandale incroyable de votre prétendue conduite vous aurait valu une célébrité malheureuse parmi ce que Paris renferme de jeunes gens du plus mauvais ton. La personne qui vous calomnie, continua Armance, que le silence obstiné d'Octave commençait à déconcerter un peu, a fini par des détails que l'étonnement seul de ma tante l'a empêché de contredire. Octave remarquait avec délices que la voix d'Armance tremblait pendant ce long récit. « Tout ce qu'on vous a raconté est vrai, lui dit-il enfin, mais ne le sera plus à l'avenir. Je ne reparaîtrai pas dans des lieux où jamais l'on aurait dû voir votre ami. » L'étonnement et l'affliction d'Armance furent extrêmes. Un instant, elle éprouva un sentiment qui ressemblait à du mépris. Mais le lendemain, lorsqu'elle revit Octave, sa manière de voir sur ce qui est convenable dans la conduite d'un homme était bien changée. Elle trouvait dans le noble aveu de son cousin, et surtout dans ce serment si simple, fait à elle, une raison de l'aimer davantage. Armance crut être assez sévère envers elle-même en faisant le vœu de quitter Paris, et de ne jamais revoir Octave s'il reparaissait dans ses maisons si peu dignes de lui.